Bonsoir, merci. Donc, ce soir, on va parler de la psychologie clinique face aux oppressions systémiques. Et vous allez peut-être vous demander quel est le rapport avec le scepticisme scientifique, avec le comité para. Alors, avant de répondre à cette question, je vais juste préciser des petites définitions pour les personnes qui ne sont pas spécialement familières avec le terme de psychologie clinique. En fait, il y a plusieurs façons d'être psychologue. Et le psychologue clinicien, c'est celui qui travaille sur le terrain avec les patients. Voilà. C'est vraiment pour faire le distinguo avec les personnes qui travaillent dans la recherche et qui sont psychologues également. Je vais également parler de psychothérapeute. Donc, psychothérapeute, ça caractérise le fait de devoir, enfin, de recevoir du public dans le cadre d'un suivi thérapeutique, d'un travail d'accompagnement, plus ou moins au long cours. Donc, pour revenir avec le lien sur le scepticisme, le rapport, c'est déjà les racines philosophiques. C'est-à-dire que le scepticisme, moi, je trouve que c'est assez intéressant pour les personnes qui vont en thérapie et pour leur permettre d'aller mieux. Donc, on a régulièrement des patients qui sont eux-mêmes très intéressés par la philosophie. Et moi qui pratique les thérapies cognitivo-comportementales, on sent quand même une petite influence philosophique du scepticisme, notamment dans les aspects de questionner les pensées, la pensée dogmatique, travailler la flexibilité mentale. Ce qui va aussi nous amener là, c'est le point de départ quand j'ai commencé à vouloir travailler sur cette présentation ce soir. J'ai noté quelques petites réactions qui venaient de la communauté sceptique quand je repartageais des choses sur les réseaux sociaux. Un exemple récent, c'est celui-ci, c'est cette personne qui s'appelle Patricia, qui a un compte Instagram, et c'est cette vidéo que j'ai vue, qui dit en fait, n'hésitez pas à demander à votre thérapeute quelles sont ses opinions politiques. Donc pour resituer le contexte, c'était il y a quelques semaines pour les élections US, et donc pour elle, c'était important que les personnes sachent où se situaient les thérapeutes dans l'accompagnement en fait des personnes et de savoir si en fait on était à peu près d'accord au niveau des valeurs. Et ça a fait réagir. C'était pas la première fois, mais là je l'ai noté. Ça a fait réagir une certaine partie de la communauté sceptique. Les questionnements en fait qu'ils relevaient, les petites critiques qu'ils avaient à faire là-dessus, c'est que normalement, si on essaie d'être dans quelque chose qui a trait avec la déontologie, on ne doit pas communiquer ses idées politiques, on ne doit pas communiquer n'importe quelle d'ailleurs idéologie, qu'elle soit religieuse ou autre. Et l'idée, c'est vraiment de rester objectif et d'éviter l'entre-soi. C'est-à-dire que je crois qu'on m'a parlé de biais de confirmation. Enfin, l'idée, c'était de... si on va voir des thérapeutes qui pensent comme nous, donc en fait, on reste dans notre truc et puis on n'a pas l'opportunité de se questionner plus que ça, quoi. Du coup, très intéressant. J'ai pris en considération l'avis de ces sceptiques-là et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que la déontologie, mais aussi qu'est-ce que la psychothérapie? Ça repose sur quoi et sur quels principes? Alors... lorsqu'on parle de psychothérapie, déjà, il faut vraiment préciser qu'il y a différentes obédiences. C'est ce que vous avez peut-être entendu sous le terme de guerre de chapelle. En fait, l'idée, c'est que parmi les psys, on a différents courants de pensée. Donc, c'est tout autant de grilles de lecture différentes, des écoles différentes, des traditions différentes. Les plus célèbres en Occident et en Europe, c'est certainement la psychanalyse et les TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale. Et l'idée, c'était de se mettre d'accord pour faire métier commun sur un socle de valeurs. Ce socle de valeurs, les psychologues, ils ont essayé donc de le faire notamment à travers un code de déontologie. Donc, il y a plusieurs version de ce code, il n'a pas de valeur légale. L'idée, c'est vraiment d'être dans la recherche de ne pas nuire et de se positionner au mieux pour accompagner les personnes qu'on reçoit. voilà, quelles que soient du coup nos écoles de pensée. Les psys, mis à part le code de déontologie, ils échangent aussi dans le cadre de réunions, d'intervisions ou même des forums en ligne. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde tout ça, on voit vraiment que cette idée de pas d'influence, pas de prosélytisme, pas de politique, pas de religieux, ça revient beaucoup dans nos discussions en fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans l'objectivité, le non-jugement, et de préserver vraiment nos patients. Donc cette idée de neutralité, qui est un concept plus ou moins accepté par tout le monde, il n'est pas écrit dans le code, mais pourtant c'est une idée qui est vraiment omniprésente, à la fois dans la conception que les psys ont de leur métier, et j'ai l'impression à la fois dans la conception que le grand public, ou même certains sceptiques du coup, ont vis-à-vis des psys. Ce concept de neutralité, il est souvent allié avec l'idée de bienveillance. Être neutre, c'est être bienveillant. Et on voit souvent aussi le terme carrément neutralité bienveillante qui revient régulièrement. Posons-nous la question. Donc, neutralité bienveillante, ça a l'air très bien comme ça. Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'on peut questionner ça à l'appui du scepticisme? Voilà, donc j'ai enquêté un peu là-dessus pour essayer de voir d'où ce terme il sortait. Et en fait, il date du début XXe siècle. Il a été amené par quelqu'un qui s'appelait Edmund Bergler. Donc lui, c'était, pour le contextualiser un petit peu, un psychanalyste qui a fui l'Allemagne nazie. Donc il a été donc aux États-Unis, à New York. C'est aussi une personne qui a propulsé d'autres termes qu'on connaît bien aujourd'hui, l'angoisse de la page blanche, la crise de la quarantaine, c'est de lui aussi. Donc voilà, lui, il est le premier à proposer ce terme. Il s'inscrit dans une démarche éthique. Son idée, c'est vraiment de rechercher le bon positionnement et la bonne distance dans l'accompagnement des personnes. Ce que j'ai trouvé quand même assez intéressant, c'est qu'il avait une autre activité, c'est, si on peut dire ça comme ça, c'est que ses productions servaient énormément à la persécution des personnes homosexuelles. Donc il a vraiment écrit énormément pour essayer de criminaliser, psychiatriser, vraiment en actant que c'était de la perversion, etc. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit que Bergler, il était dans son contexte et ça nous permet peut-être de nous émettre une hypothèse. C'est-à-dire que si Bergler, lui, il croyait être neutre et bienveillant, nous aussi, finalement, est-ce qu'on ne court pas le même risque? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas là en train de se dire que finalement on est neutre et bienveillant tout en ne l'étant pas? En faisant toujours mes petites recherches, je vois qu'il y a d'autres cliniciens qui se sont posé cette question de la neutralité bienveillante. J'ai remarqué notamment sur le site d'Igor Thiriet, donc, qui est un contributeur contemporain, notamment, on le connaît bien dans le monde des TCC. Donc lui, il a écrit un petit billet de blog où il dit bah, la neutralité bienveillante, déjà, c'est pas possible et c'est non souhaitable. L'idée, c'est que déjà, on n'est pas maître de nos apparences et de nos conduites. Et puis, ce n'est pas souhaitable d'être neutre parce que ça entraverait l'empathie. L'idée, c'est que si on est trop neutre, on communique mal nos sentiments, on montre pas très bien notre empathie. Et en fait, ça passe aussi par ça, le fait d'être en lien avec quelqu'un, c'est de pouvoir quand même partager, des émotions, montrer un petit peu de chaleur humaine, dans ce cadre thérapeutique. Et en fait, mettre une personne à l'aise, ça implique de se connaître un minimum. Il dit autre chose que je trouve super intéressant, c'est que en thérapie, c'est très important de montrer son imperfection en tant que thérapeute, parce que ça permet de, comment dire, d'autoriser le patient à être imparfait aussi, en fait, à être dans un lien d'authenticité quelque part. Charlie Kinji, c'est pareil, un autre contributeur, un formateur en TCC. Lui, il écrit énormément sur l'alliance thérapeutique, qui est donc ce lien. Enfin, pour vous préciser un petit peu, l'alliance thérapeutique en thérapie, c'est vraiment le lien, le premier outil, qui permet en fait à la relation thérapeutique et au travail thérapeutique, d'exister, quoi. Donc, selon qu'un J. L'idée, c'est de vraiment recruter des traits qui nous sont propres, de faire des révélations sur soi. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de raconter sa vie en thérapie. Non, l'idée, c'est on reste adapté et sans faire glisser la thérapie vers une autre relation, on peut voilà, encourager l'autre à montrer que nous aussi, on traverse des choses, nous aussi, on comprend réellement ce qui se passe. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que souvent en science, on parle de communiquer sur ces conflits d'intérêts. Et là, bah, en fait, ça revient à faire la même chose en thérapie. En fait, on est transparent, on montre qui on est authentique, et ça permet en fait à la relation d'exister. Donc voilà, les psychothérapeutes, ils auraient eux-mêmes des biais, qu'ils en aient conscience ou pas, et des attentes sur ce qui est à faire ou non en thérapie. Mais par contre, ils ne sont pas en contrôle de l'image qu'ils donnent. En tout cas, pas totalement. Les psys ont des attentes, les patients aussi. Les patients, ils ne recherchent pas tous, en tout cas pas spécialement, de la neutralité quand ils cherchent des psys. Ils ont déjà des recherches, des critères en ce qui concerne les techniques thérapeutiques. C'est assez courant qu'on nous demande ou qu'on vienne nous voir parce qu'on fait de l'EMDR ou alors parce que les patients se sont renseignés et qu'ils voient que pour traiter des phobies, il faut faire de la TCC. Enfin, voilà, donc on part en tant que patient aussi avec des idées de ce qu'il nous faudrait comme thérapeute avec certaines représentations. Donc des techniques thérapeutiques, mais aussi ce qui peut mettre à l'aise, c'est l'âge, le genre, etc. Il y a aussi quelques patients qui cherchent des critères politiques, c'est-à-dire à vraiment se rapprocher de thérapeutes qui sont impliqués dans les mêmes luttes qu'eux, parce que voilà, ça favorise justement l'alliance dont on parlait tout à l'heure. Une idée assez répandue avec laquelle les patients arrivent régulièrement en thérapie et sur laquelle on va travailler, nous, en tant que psy, c'est celle de l'origine de la souffrance. Alors, par souffrance, je vais faire une petite définition, c'est l'inconfort, c'est ce qui va vraiment nous empêcher de fonctionner comme on voudrait. Ça va avoir des répercussions sur nos relations, notre vie, le sens qu'on donne à notre vie aussi, et des répercussions physiques potentiellement. Et donc, pour nos patients, cette souffrance, parfois, elle viendrait, comment dire, d'une cause, d'un élément déclencheur, et le fait d'identifier cette cause permettrait d'accéder à la guérison. Cette conception de la souffrance, qu'on retrouve notamment dans tout ce qui est traitement des traumas, etc., donc c'est très influencé par le développement personnel, la spiritualité New Age, et ça peut parfois amener des idées que voilà, déjà il faut aller rechercher cet élément déclencheur dans notre passé, puis si on n'a pas de souvenir de cet élément, peut-être dans notre inconscient, et puis pourquoi pas dans nos vies antérieures, ou pourquoi pas chez nos ancêtres. Et pourtant, la souffrance, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est plutôt une combinaison de facteurs. Donc ces grands facteurs, les voilà en trois grandes catégories qui vont s'articuler en fait autour de la santé mentale. Il faut voir ça un petit peu comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes par-dessus les autres, à part que là, c'est un petit peu plus poreux. Ça évolue dans l'espace, dans le temps. Alors pour vous faire une petite description quand même, en fait dans les caractéristiques individuelles, ça va être notre histoire de vie, nos ressources physiques, justement notre accès à la spiritualité, etc. Le milieu de vie, ça représente plutôt la petite poupée russe qui est juste au-dessus donc, de notre personne, qui s'emboîte avec nos systèmes les plus proches, donc le couple, la famille, le travail, toutes les relations qu'on peut avoir dans ces cadres-là. Et enfin, il va y avoir des facteurs structuraux qui vont englober tous les autres facteurs. Ces facteurs structuraux, c'est vraiment le niveau du contexte global, c'est-à-dire les politiques publiques. C'est là aussi qu'on va retrouver vraiment tout ce qui est discrimination, la migration forcée, les stigmatisations, tout ce qui est relatif à la santé mentale, à l'origine ethnoculturelle, etc. Donc vraiment aussi le statut socio-économique, c'est super large. Donc en fait, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que si moi, là, je suis dans mon cabinet ici à recevoir une femme qui est victime de violence, bah, en fait, je dois prendre en considération le fait que, ok, elle a été victime, admettons, dans son couple, donc milieu de vie, mais aussi d'une violence systémique parce qu'elle est une femme. Et c'est pareil pour une personne que je vais recevoir, admettons, de la communauté LGBT. Si je la reçois ici dans mon cabinet, je reçois également toutes les violences structurelles et systémiques qui englobent sa personne. C'est-à-dire qu'à tous les différents niveaux, il y a eu de la violence et de la stigmatisation. Ce que je voulais montrer par là, c'est que, en fait, notre santé mentale, elle est imbriquée dans tellement de choses, dans tellement de systèmes, qu'il n'y a pas une seule explication, et surtout pas une explication interne, quoi. Et en fait, on va vraiment vivre différemment la santé mentale en fonction de nos places dans les systèmes et en fonction des étiquettes projetées sur nous par l'ensemble de la société. Donc vraiment, on ne va pas du tout avoir les mêmes chances en fonction de comment on se situe sur un spectre d'oppression et de privilèges. Donc bah, finalement, nous y voilà. La santé mentale, bah, ça a quelque chose à voir avec la société. Et à partir du moment où on est dans une société, bah, c'est un fait politique. La définition de politique, là, c'est vraiment les liens, les règles, les dynamiques qu'il y a entre un individu, la société, les organisations de cette société. Et ça comprend les rapports de force, les inégalités, les accès aux ressources et aux droits. Je précisais aussi qu'on va avoir différentes façons d'être malade et d'accéder aux soins en fonction de cette place-là dans la société. Je suis tombée aussi sur un petit livre qui est vraiment très très bien, qui s'appelle « Ce n'est pas toi le problème ». C'est Pierre Bordaberry qui l'a écrit. Je le trouve bien parce qu'il est très bien vulgarisé et que justement, il montre à quel point le trouble, le problème psychologique, c'est quelque chose qui s'imbrique dans des choses beaucoup plus grandes. Il fait le lien avec la société moderne. En fait, il va donner un peu plus de perspective sur tous les différents niveaux qu'on a vus tout à l'heure. Ça va expliquer comment les réseaux sociaux, nos sociétés industrialisées, comment nos différents styles de vie peuvent impacter notre santé mentale et maintenir ou provoquer les troubles. Et ce qui est super cool aussi dans ce livre, c'est que à la fois, il va proposer des petites solutions individuelles, de gestion émotionnelle par exemple, et des solutions plus collectives. Il y a aussi le docteur Sana Hassan, qui est une psychologue, une psychothérapeute, je crois qu'elle est poète aussi. C'est quelqu'un de très engagé. Elle travaille, il me semble, en Angleterre. Elle a eu une image super intéressante, j'ai trouvé, parce qu'elle dit, voilà, quand une plante se fane, on ne va pas diagnostiquer un syndrome de la plante fanée. On va changer ses conditions. On va lui mettre plus de lumière, plus d'eau, moins d'engrais. Enfin, on va faire en sorte de changer les systèmes autour d'elle, en quelque sorte. Et elle remarque que, bah, pour les humains, quand ils souffrent, quand ils sont dans des conditions invivables, là, j'ai une petite pensée, par exemple, pour la souffrance au travail ou le burn-out. Bah, on va nous dire que faut se prendre en main, faut se faire soigner, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment une injonction un peu saniste à devoir à tout prix guérir, à aller bien. Et c'est ta faute si tu ne le fais pas, quoi. Hein. Donc voilà, l'idée, là aussi, ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une perspective quand même de, voilà, il faut travailler, il faut produire. Et sa douleur, il faut se la gérer en quelque sorte. Ok, donc la thérapie, est-ce que ça sert à rien finalement? Parce que si c'est la société qui nous a conduits là, est-ce que mon métier a encore un sens quelque part? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que la pleine conscience, les exercices de gestion émotionnelle, de respiration, moi c'est ce que j'apprends hein, aux personnes en thérapie d'ailleurs, hein. Notamment dans le cadre des TCC, bah, ça va pas spécialement changer la santé mentale d'un enfant qui est confronté à la pauvreté. Il faut vraiment s'inscrire dans quelque chose d'un petit peu plus systémique, un petit peu plus général. En fait, la thérapie individuelle, on peut lui faire des critiques, mais moi je pense qu'elle a encore de la valeur et que ça peut devenir vraiment un espace où l'oppression va être examinée et où l'objectif, c'est pas simplement de réduire la détresse ou de l'amenuiser. L'idée, c'est de vraiment la considérer comme une réponse de survie face à un monde oppressif. Et à partir du moment, en fait, où on commence à reconnaître qu'il n'y a pas que les caractéristiques individuelles qui génèrent de la souffrance, alors on va pouvoir parler de thérapie engagée. Alors je vais essayer de vous présenter l'intérêt des thérapies engagées et pourquoi c'est quelque chose qu'on devrait peut-être considérer dans nos pratiques un petit peu plus. La thérapie engagée, c'est une thérapie déjà qui est militante. Elle se caractérise par la posture qu'elle prend par rapport au système. Donc, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, déjà, elle va considérer que la santé mentale, c'est vraiment une histoire collective, une histoire vraiment sociétale. C'est une thérapie qui prend en considération les luttes. Donc, voilà, elle est actualisée à ce niveau-là, elle sait ce qui se passe, elle sait pourquoi les gens se battent dans la vie. Militante aussi parce que je trouve qu'il y a aussi du soin quand la personne qui souffre entre en militantisme, essaie de se battre en fait pour ses droits et à changer enfin à viser un changement social. Donc comme on l'a vu, militante aussi parce que justement elle questionne ses cadres d'oppression, de privilèges. Et parce que militante aussi, parce que elle est vraiment liée à la justice sociale et aux droits. Quand je parlais aussi des luttes militantes, je vais vous donner un petit exemple. Donc, s'engager redonne du pouvoir, et on le voit par exemple pour l'éco-anxiété. C'est un exemple hyper intéressant parce que, ok, on peut le travailler en thérapie, on peut passer en revue quelles sont les croyances, quelles sont les pensées, quelles sont les émotions qui blessent. Mais je pense que on peut aussi considérer que lorsque la personne se bat activement pour une cause sociale, pour une cause climatique, ça va lui redonner aussi du pouvoir. Les thérapies engagées sont intéressantes aussi parce que ce sont des thérapies critiques. Elles s'attachent vraiment à tout ce qui est esprit critique, éducation, notamment donc des systèmes de domination, également du prisme colonial et occidental dans lequel on baigne tous plus ou moins à partir du moment où voilà, on est français, belge, européen. Elle va critiquer aussi certaines décisions gouvernementales nuisibles. Alors nuisibles, là, j'ai manqué de neutralité, j'ai vraiment parlé de ce que moi je pense, parce que j'avais en tête, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais en France, on a un dispositif qui s'appelle Mon Psy, qui est vraiment un dispositif qui participe à activement tuer le service public, notamment parce qu'il supprime des postes qui existaient et qui permettaient en fait l'accès aux soins psy pour tout le monde, sans critères, et même les personnes qui avaient aucun moyen, quoi. C'était vraiment aussi très intéressant d'un point de vue financier. Et donc voilà, si on est un thérapeute engagé, on peut participer justement à critiquer ou à manifester contre ce genre de décision gouvernementale. Alors, pour continuer à vous présenter tout ça, le cadre des thérapies engagées, c'est déjà un cadre scientifique actualisé. Ça se voit notamment par rapport aux questions de genre, par rapport aux questions de neurodiversité, de décolonialisme, de féminisme, d'antiracisme. Ce sont des thérapies qui s'ancrent vraiment dans les avancées en sciences humaines et sociales, qui ne sont pas juste à reproduire de façon dogmatique des traditions européennes anciennes. Donc voilà, là on prend en considération les avancées de la science. pour parler des psychothérapeutes engagés, les psychothérapeutes engagés vont travailler à reconnaître leurs propres biais, leurs propres privilèges, et le fait que, voilà, on est tous porteurs, et c'est mon cas aussi, hein, d'un modèle européen, d'automatismes vraiment hyper coloniaux. Et l'idée, c'est pas forcément de dire non, mais moi, je suis neutre, je suis bienveillante, je suis pas raciste, je suis pas grossophobe ou quoi. C'est vraiment d'aller chercher au fond de moi où se trouve la raciste, l'homophobe, etc., si je veux sécuriser les personnes qui travaillent avec moi. Donc voilà, plutôt que de me bercer d'illusions, ça encourage à voir les choses vraiment en face. Ça pique un peu parfois, mais ça permet peut-être un peu plus d'efficacité sur la reconnaissance des biais. Les psychothérapeutes engagés vont également questionner le contrôle social. Alors, par contrôle social, je m'explique un peu. Notre position en tant que psychologue, psychologue clinicien, psychothérapeute, elle nous donne du pouvoir sur les autres. Et là, je parle carrément de ma formation, puisque je suis aussi criminologue, je suis formée aux expertises, à faire des suivis de soins pour les personnes en injonction ou en obligation de soins. Et c'est quand même très compliqué parce que on a tellement de pouvoir sur la vie des gens, en fait. C'est-à-dire que ça les met en position de devoir nous prouver qu'ils sont adaptables à cette société. Et nous, on va valider, on va fournir un discours au magistrat pour dire que oui ou non, la personne est adaptée. Ou... Enfin voilà, c'est quand même très particulier quand on y pense. C'est vraiment des missions presque de policiers, hein, quelque part, je trouve. Ce qui est un peu plus compliqué aussi, c'est quand nos traditions ou quand nos grilles de lecture sont, par exemple, et désolé, c'est pas du tout pour lancer des attaques, mais le problème, par exemple, de la psychanalyse dans les expertises judiciaires, c'est quand même un sujet très, très lourd qui participe encore à maintenir des violences incroyables par rapport aux femmes ou aux minorités de manière générale. Donc voilà, un psychothérapeute engagé, il va questionner son pouvoir et cette histoire de contrôle social pour éviter de continuer à perdurer dans cette lancée. L'idée, en fait, c'est que ce pouvoir, on va le redonner aux patients. On va vraiment sortir d'une certaine verticalité et on va essayer de se positionner avec nos patients sur un lien plus horizontal. Vraiment, l'idée, c'est d'empouvoirer la personne, de la libérer, de la soutenir et de partager ses luttes. Un exemple de thérapie engagée dont on ne parle pas toujours beaucoup en Europe, c'est la psychologie de la libération. Pour vous contextualiser ça, c'était début 20e, en Amérique latine, la personne qui a inventé ça, on va dire, c'était Ignacio Martín Barro. Donc c'était un psychologue et lui, son action, donc ça passait par la thérapie individuelle, la prise en considération des contextes, c'est-à-dire que là-bas, au moment où il s'occupait des personnes, c'était vraiment d'une extrême grande pauvreté. Donc l'idée, c'était de créer du collectif, éduquer les personnes à l'esprit critique, manifester, se battre pour ses droits. Il a été assassiné parce que c'était un fervent défenseur des droits. Je pourrais aussi citer la thérapie féministe. Le cadre de la thérapie féministe, c'est vraiment prendre en considération les inégalités de genre, le système patriarcal. Quand on accueille une personne dans nos cabinets en thérapie, la resituer là-dedans. La thérapie antiraciste, c'est pareil, c'est une thérapie qui va qui va avoir une conscience critique des impacts du racisme sur la santé mentale. Voilà, déjà, l'idée de pouvoir offrir un espace aux personnes pour qu'elles puissent examiner, remettre en question tout cet aspect politique autour de leur existence, c'est déjà assez libérateur. Pour redire tout ça, donc les principaux aspects de la thérapie engagée, c'est qu'elle est militante et critique. Elle a un focus vraiment sur les oppressions, les privilèges, la justice sociale. Son objectif thérapeutique, c'est d'émanciper les personnes, de créer des actions, des ressources collectives. Donc, pour le coup, j'ai une petite pensée pour une des remarques que j'avais reçues par rapport à mon partage tout au début de la présentation, où la personne m'avait dit « Oui, voilà, ça favorise l'entre-soi. Ben » Là, c'est clairement ce qu'on cherche. Hein. On veut de la communauté, on veut du soutien social, on veut de l'associatif. Voilà, l'idée, c'est de créer un maillage autour des personnes, de pouvoir relier aussi avec des professions qui sont dans le juridique. Voilà, on va vraiment venir faire un maillage, un tissu social pour soutenir les groupes, la communauté minorisée et la personne qui en fait partie. Par rapport donc au psy, l'idée c'est que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut avoir comme garantie minimum par rapport à ces publics minorisés, c'est de leur éviter de nous faire une éducation et de se former en fait nous-mêmes. Donc voilà, en sociologie, pourquoi pas, ou à faire des formations sur les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles, de vraiment aller nous chercher ces informations-là pour que nos patients ne soient pas obligés de nous éduquer. Et puis, bien sûr, comme je le disais, sortir du contrôle social. Une autre chose que j'ai peut-être pas forcément notée ici, c'est que quand on est un psy engagé, l'idée aussi, quand on essaie d'être militant, c'est de pouvoir prêter notre parole à ces personnes, à essayer de se faire le relais. Voilà, donc je parlais tout à l'heure de faire le relais d'un point de vue peut-être collectif, associatif, mais aussi dans nos prises de parole. L'idée, c'est vraiment soins individuels, transformation sociale, inclusivité. On arrive déjà à la fin, c'est passé vite. Si vous deviez retenir de cette présentation trois points, c'est que la souffrance des personnes, elle vient des réalités sociales. C'est pas une histoire de mindset, c'est pas une responsabilité individuelle. C'est une responsabilité collective. On est tous responsables des uns des autres. Voilà, c'est pas un phénomène interne qui dépend de la seule gérance de l'individu. Si déjà dans nos discours on pouvait essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas facile, hein, mais de changer ces histoires de voilà, prends-toi en main, va te faire soigner, va voir un psy. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est que nous les psys, on a des logiciels oppressifs, on a des privilèges par rapport à notre statut. Notre métier, mais aussi voilà, parce que, dans mon cas, parce qu'on est blanc, parce qu'on est bien loti, parce qu'on n'a pas des réalités sociales trop violentes parfois. Donc, être neutre et bienveillant, ça ne va pas suffire. Et enfin, le dernier point, c'est que le soin en santé mentale, vraiment, il passe par le collectif, il passe par la justice sociale, se battre pour nos droits, se battre pour le droit des autres aussi. Ça fait partie du fait de reconnaître nos privilèges, c'est de pouvoir rejoindre les autres et leur prêter main forte pour grossir les rangs, en quelque sorte. Voilà, je vous ai mis quelques petites références, si vous voulez.
Moi, c'est une question vraiment très pragmatique de où est-ce qu'on trouve les psys comme ça, déjà ? Parce que moi, j'ai déjà un peu essayé de trouver sur Google et je suis toujours déçue par mes psys. Et aussi, peut-être savoir un peu l'avancement de... Est-ce que ces débats, ces questionnements rentrent dans les facs, rentrent chez les psys ? À quel point c'est saisi par d'autres psys ? C'est vrai que j'ai l'impression que la formation psy est quand même assez catastrophique à certains niveaux. Moi, j'ai fait socio en plus, du coup, on voit le décalage qu'il peut y avoir. Mais voilà, donc moi, un peu ces deux questions-là, très terre à terre.
Alors, c'est compliqué parce qu'en tant que psy, on n'est pas, comme tu as vu, en fait, on n'est pas vraiment encouragé à parler de nos idéologies. Donc, c'est compliqué, mais il y en a en fait de plus en plus, on le fait. Donc, ce que tu peux faire, après, c'est parfois un peu laborieux, c'est d'aller vraiment voir si le psy communique sur son activité. Est-ce que la personne a un site internet? Est-ce qu'il a fait des articles? Voilà. Mais comme disait la personne, la thérapeute américaine du début, enfin, faut pas hésiter à demander en fait si la personne. Si le psy a des opinions politiques, et puis en fait, s'il répond sur la défensive, c'est déjà peut-être une première réponse. Et du coup, la deuxième question, c'était quoi?
Où en est l'avancement de ce genre de questionnement, nouveau regard, un peu, même si j'imagine que c'est difficile de faire un gros état des lieux, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en saisissent? Est-ce qu'il y a beaucoup de réactions négatives, des réactions positives? Ouais.
Ouais,
S'il y
c'est
a des
chaud.
collectifs de psy cool qui sont venus, je sais pas.
Bah, en vrai, c'est chaud parce que c'est compliqué. Parce que, à partir du moment juste où on drop le mot politique, ça fait réagir à fond la caisse tout de suite. C'est hyper épidermique. Alors que ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est que c'est très dépassionné en fait. De facto, on est politique parce qu'on vit en société. Mais ouais, ça fait super réagir. C'est pas facile, c'est pas facile. Je sais pas si c'était la réponse que t'attendais, mais ouais, après on essaie de s'accrocher, on essaie de parler. Et j'espère que, ouais, enfin on va voir les discussions qu'on aura tous ensemble tout à l'heure, mais j'espère que des petits événements comme ça aussi, ça y participe.
Ah oui, merci. Bah justement, pour rebondir, comment on pourrait aller chercher ces thérapeutes? Ça s'appellerait quoi? Une thérapie engagée?
Ouais, en fait, tu peux. Moi, pour les repérer, ce que je fais, c'est par mots-clés, tu vois. Donc, j'essaie de voir si. Ouais, engagé, militant. Ouais. Mais par contre, je sais pas si je vais pas réouvrir un sujet là-dessus, mais. Vérifie, parce qu'il y a quand même des petits red flags, tu vois, parce que. T'as aussi beaucoup de personnes qui sont là, oui, mais moi, je suis un psy, safe place, bienveillant. Ça, enfin, fait un peu gaffe du coup, mais ouais, enfin, non, c'est super compliqué à trouver. Faut vraiment tout décortiquer. Et puis, non, tu peux aussi parler à des associations autour de chez toi. Peut-être que, voilà, à force, on se connaît un peu aussi les uns les autres. Donc,
Pour avoir cherché des thérapeutes féministes, il y en a.
il y en a,
Ah ouais?
ouais.
Ok, bon, j'en ai trouvé genre une quoi.
Ouais.
Mais.
Mais
Ah bon, d'accord. Ok.
même si tu contactes des assos féministes, des fois elles ont des petits, je sais pas si catalogue, non, annuaires, des petits annuaires, tu vois. Mais après, essaie d'avoir quand même un esprit critique parce que je trouve que tout est pas spécialement bon à prendre là-dedans, mais ça peut être des pistes.
Ah ouais, non, mais j'en profite juste sur la même question. Est-ce que, par exemple, les psys qui sont dans les structures, donc il y a des maisons médicales qui visent des publics plus pauvres, quoi, bah, du coup, peut-être que sans doute ces psys-là sont plus sensibilisés.
A priori, oui. Mais toujours, questionne, franchement. Ouais. Va questionner, toi. C'est pas parce que c'est labellisé aussi, tu vois, safe, bienveillant, politique, machin, qu'il faut tout de suite tomber, comment dire, ou donner sa confiance tout de suite. Si tu peux les rencontrer ou discuter avec, c'est encore mieux.
Moi, je me demande un peu, du coup, concrètement, enfin, tu disais que, du coup, tu as accompagné les gens un peu dans leur lutte politiquement et tout. Est-ce que, enfin, c'est parce que tu es dans un truc, un planning ou une maison médicale, ou est-ce que tu fais ça, enfin, ça veut dire quoi concrètement quand tu dis que, ouais, tu les accompagnes dans leur lutte?
Alors, du coup, moi je suis en cabinet libéral, je suis indépendante et je suis à mon compte. Donc, ma façon de faire, c'est déjà d'être en lien avec des organismes locaux, des associations, des collègues, d'autres professions, des juristes aussi, des fois. Et c'est quoi déjà le début?
Ça, non, ça. Mais non, c'est juste. Enfin, moi, j'ai fait psycho et du coup, j'ai un peu pas du tout pris cette voie finalement parce que je trouvais ça un peu. inutile pour changer la société, mais du coup ça fait de l'espoir, et c'est vrai que ça donne envie quand tu racontes, enfin en tout cas ça a l'air de marcher. Je sais pas si t'en parles et que t'en fais des posts.
Ouais, je sais pas ce qu'on entend par marcher. Après il faut aussi se dire que ouais, tu t'exposes forcément à plein de critiques ou des attaques, mais ouais, je sais pas, moi j'ai la sensation que c'est juste parce que bah, moi, je suis sensible à ce qui est scientifique et je suis sensible aussi à tout ce qui est justice sociale. Et du coup, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est la bonne chose à faire, quoi. C'est... Voilà. Donc, en fait, j'ai fait venir le cadre politique dans un cadre, on va dire, plus classico, TCC, tu vois.
Est-ce que, donc, si j'ai bien entendu, tu n'as pas mentionné dans ta présentation l'expression thérapie systémique. Oui. Est-ce que, donc, d'après ce que j'ai compris, les thérapies systémiques, elles sont censées être héritées de la psychanalyse en prenant ce qui était intéressant dedans et en rajoutant justement la dimension sociale et le lien avec les structures. Est-ce que c'est comme ça que si tu as des collègues qui travaillent en systémique, est-ce que tout le monde fait ça en systémique? Ou est-ce que c'est... De nouveau, ça va dépendre de la formation politique des gens, quoi. Est-ce qu'on apprend vraiment en systémique à replacer dans le contexte social?
Oui, non, c'est... Ouais. Okay. en fait, c'est vraiment deux choses différentes. Et il y a vraiment l'aspect politique qui est totalement indépendant. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de thérapie systémique. C'est comme TCC. Ça dépend. Ça dépend de ce que toi, tu mets dedans en matière de lutte, de militantisme...
Et c'est quel système dont il parle alors, si c'est pas ça?
Familiaux, principalement. Voilà. L'idée, c'est vraiment ouais, d'articuler... en fait, quand on suit ou quand on accompagne des familles, ouais, l'idée, c'est de faire de la médiation, de voir la place de chacun dans le système famille. C'est plutôt ces choses-là, ouais. Donc, plutôt, dans le schéma là, que j'avais montré, dans la tranche milieu de vie, le niveau structurel est un petit peu moins pris en compte. Ça, à mon avis, c'est un peu au jugé des personnes.
Je pense que quelqu'un l'a abordé tout à l'heure un petit peu, la question de la formation des psychologues. Donc, au niveau académique, dans les facultés, est-ce que ce que tu proposes là tendance, ça s'est un peu représenté aussi dans les facultés ou pas du tout? Parce que bon, si on veut que les choses évoluent, il faut quand même travailler sur la formation à la base, et en tout cas celle qui est reconnue, l'officielle.
Oui, bah non. non. Mais ouais, peut-être si on est nombreux, on y arrivera. Hein. Mais ouais, c'est vraiment le même truc que ce que je disais tout à l'heure, le côté politique, tout de suite, ça fait très 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 réagir. Ouais.
C'est bloquant. Je tiens à préciser que tu as fait ta formation en France.
Oui.
Mais j'allais demander, est-ce que c'est une particularité franco-française ou francophone? Ou est-ce que si tu traverses la Manche, c'est différent?
Bah, en fait, on a tellement des formations différentes. C'est même pas tant de la France à la Belgique, mais même en France, tu vas dans une faculté et ensuite dans une autre, tu vas vraiment apprendre des trucs complètement différents, des positionnements complètement différents. J'ai fait mon cursus licence à Bordeaux. Ils étaient à fond sur tout ce qui était neuro, tout ce qui était un peu bio et tout. Donc, je ne savais même pas écrire le mot Rorschach ou quoi. J'en avais jamais entendu parler. Et ensuite, je débarque à Nancy pour mon master. Et là, c'était que les tests projectifs, la clinique, ça voulait dire psychanalyse, en fait. Donc, vraiment, tu sautes d'un endroit à l'autre, c'est des enseignements totalement différents. Donc, c'est après à nous de nous former aussi, quoi, hein, à côté.
T'as mentionné le dispositif Mon Soutien Psy, donc qui, moi, Macron, il m'a dit, c'est des séances de psy remboursées, c'est censé être positif, c'est tout ça. Toi qui apportes un regard critique là-dessus, c'est quoi le point de vue des psys, justement, par rapport à ça? Et comment vous pouvez faire, comment vous pouvez agir à votre échelle pour peser là-dessus et sur... Voilà.
Déjà, on n'est pas d'accord, nous les psys, par rapport à ce dispositif. Ouais, c'est compliqué parce qu'on fait croire aux gens que, en fait, c'est cool pour eux, ils vont pouvoir avoir accès aux thérapies, enfin, en tout cas, quelques séances gratuites, etc. Donc, ça semble hyper cool. Bah, à part que c'est ce qu'on avait déjà. Et en fait, c'était allé en CMP, c'était gratuit, les psys étaient... on se diplômait pareil. Enfin, c'était hyper accessible pour toutes les populations. Et là, ils nous font croire à un truc...
Comme quoi, qui au final, c'est une mesure limite politique pour essayer de vendre qu'on prend soin de la santé mentale des gens, mais au final, ouais. On détourne l'utilisation. Enfin, c'est pas vraiment un truc très concret, c'est un coup marketing, un peu de com', un peu vite fait comme ça.
C'est ça.
Mais, okay.
Et à côté de ça, en fait, ils suppriment des milliers de postes de psychologues dans les milieux associatifs. Enfin, voilà, c'est hyper problématique. Et en plus de ça, on se retrouve affilié à la médecine, alors que c'est pas du tout... on n'est pas des paramédicaux. Nous, on est on a fait sciences humaines, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. On n'est pas prescriptible, si tu veux, par les médecins. Voilà.
Tu as parlé de maillage et du fait que tu aidais, en tout cas, je l'ai compris comme ça. Corrige-moi si je me suis trompée, mais que tu aidais ton patient à s'intégrer dans. Les milieux, ouais, voilà. Est-ce que c'est que ça? Enfin, comment tu aides l'individu à se créer des réseaux et
Déjà, on voit avec la personne quels sont ses goûts, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses ressources, et par rapport à ça, on va essayer de vraiment cartographier ses besoins, de voir ce qui lui correspond le plus. Et l'idée, c'est peut-être créer le lien avec d'autres thérapeutes. Ou comme je disais, des juristes ou des assos, ou même de la paire aidance, tu vois, le diriger ou l'orienter en tout cas vers des personnes qui vont pouvoir l'accompagner. Je sais pas si tu vois ce que c'est, je suis en train de dropper le mot paire aidance, je sais pas si c'est très parlant. La paire aidance, en fait, c'est des patients qui sont eux-mêmes en rémission et qui, à côté de ça, font en France, on commence à avoir des DU de paire aidance pour vraiment être. Accompagner ses pairs, quoi, PAIR. Voilà, donc c'est trop intéressant, en fait.
Ok, donc en fait, le patient travaille avec des gens qui ont fait une thérapie avec toi ou avec d'autres?
Non. En fait, il va travailler avec des personnes qui ont traversé les mêmes choses que lui, okay. Ou qui traversent, mais qui sont en rémission.
Comme les groupes de parole des alcooliques.
Un peu, ouais. Ouais. Ou on peut aussi d'ailleurs l'orienter vers des groupes de parole si ça répond à son besoin. Voilà, l'idée c'est de vraiment ouvrir le cabinet un maximum et de pas rester juste dans cette relation à deux et voilà le reconnecter vraiment à du collectif.
Merci.
Mais attention, je le recrute pas pour l'emmener dans des groupes politiques et tout, hein.
Moi j'ai aussi une question par rapport à l'utilisation des termes santé mentale, parce que j'avais vu une conférence critique au REC, donc au Rencontre de l'Esprit Critique, pour ramener un peu le scepticisme, sur le fait que le terme, à la base, venait d'une perception très hygiéniste, où en fait, on avait commencé à regarder les gens qui traînaient dans la rue, machin, et à un moment on s'est dit, bon, tous ces gens-là, on va... nettoyer tout ça, hop, on a tout mis dans des hôpitaux psychiatriques, et que en fait c'était hérité de cette vision de la bizarrerie ou de la sortie de la société comme quelque chose qui était de la maladie, donc qui relevait de la même chose que les maladies, que les virus et trucs comme ça, et qu'en fait c'est pour ça qu'on parle de santé mentale par opposition à maladie mentale, et donc en fait on a complètement importé le vocabulaire des épidémies, tout ça, et donc cette personne elle critiquait le fait que qu'on utilise ce terme là et elle disait, enfin, que ça renvoyait à ça. Est-ce que toi tu penses que on continue à l'utiliser en adaptant le sens, ou est-ce qu'il faut quand même se méfier, ou est-ce qu'il y a des termes alternatifs? Qu'est-ce que tu penses de ces connotations, quoi?
Déjà, je te rejoins totalement sur cette observation-là. Je la trouve très pertinente. Et je ne sais pas si j'ai la juste réponse, mais en tout cas, moi, je la modélise dans ma tête comme on utilise ça pour l'instant, pour transiter peut-être vers un autre modèle, une autre perception, donc de la santé mentale. Mais oui, c'est quelque chose de hyper problématique quand ils pensent. C'est vraiment... mais même dans nos langages courants, on est toujours en train de stigmatiser le bizarre, le fou doit se soigner, il a qu'à pas être fou, tu vois. Enfin, on peut, c'est comme si on pouvait pas tolérer que les personnes aillent pas bien. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment trop de mal avec le développement personnel, tu vois, parce que c'est vraiment trop un truc. C'est cool si t'es blanc, riche, favorisé, cis, hétéro, voilà. Mais en fait, autrement, c'est genre déconnecté, tu vois. Enfin, pourquoi on n'a pas le droit d'aller mal? Pourquoi on n'a pas le droit d'être en colère, tu vois? Parce que justement, l'aspect militant, etc. Donc, il faut être docile, il faut travailler, il faut être productif. Et il ne faut pas péter les plombs, quoi, tu vois. Il ne faut pas être en colère, il ne faut pas être hystéro quand tu es une femme. Mais c'est compliqué parce que même nous, dans nos langages, ça fait partie vraiment de nos vocabulaires, ce truc-là de rejet du rejet de la folie, du bizarre. Et ça serait bien de faire une place à ça et de normaliser en fait le fait qu'on soit en colère, le fait qu'on soit pas bien, ou le fait qu'on pense un peu différemment, ou qu'on agisse un peu différemment. En fait, si tu regardes même d'un point de vue criminologique, ceux qu'on va appeler les folles ou les fous, ils subissent la violence. C'est pas eux qui la font sur les autres, tu vois. C'est pas dans ce sens-là. Voilà.